Bonjour à toutes et à tous. Dans moins d'une semaine, premier tour des élections départementales, CFM Villefranche se mobilise pour donner la parole aux candidats dans vos cantons. Aujourd'hui, deux binômes et deux cantons. Et on commence avec la liste Le Printemps Aveyronnais sur le canton de Villefranche, avec le binôme Christine Valentin et Romain Oharot. Un entretien mené par Claude Devezin, animateur de l'émission politique Table Ovale sans ellipse.
CFM. CFM Radio. CFM Villefranche.
Christine Valentin et Romain Oharot, vous êtes candidat à l'élection départementale pour le canton de Villefranche. Enfin, vous aurez à gérer et à donner vos avis sur l'ensemble du département, et vos documents de campagne montrent cette préoccupation. Je pense que d'abord, il serait bon que vous vous présentiez rapidement.
Alors, Christine Valentin, j'ai 57 ans, je suis technicienne agricole, agricultrice et je suis experte en environnement. Je suis engagée anti-nucléaire depuis, j'ose pas dire combien d'années, et de gauche, vraiment de gauche. Je me suis présentée aux élections législatives pour la France Insoumise en 2017, sur la région de Lyon.
Le monsieur ?
Romain Oharot, j'ai 42 ans, bientôt 43. J'ai été enseignant pendant une quinzaine d'années, puis j'ai arrêté pour aujourd'hui revenir.
Qu'enseignez-vous ?
Qu'enseignais-je ? J'ai été professeur des écoles bilingues français-occitan, donc dans le bilingue à parité horaire. Et puis j'ai travaillé aussi pendant 9 ans à l'EREA de Villefranche, donc avec des adolescents en difficulté sociale. C'était vraiment un travail relativement différent. J'ai aussi été directeur pendant 2 ans de l'école de Saint-Rémy. Et j'ai travaillé sur diverses écoles dans le Villefranchois.
Et voilà. Maintenant ?
Et maintenant, traducteur-interprète en pause pour les, pour les élections. Et accessoirement, à côté, je suis aussi acteur amateur et puis j'essaie de faire tourner un petit peu la vie culturelle sur Villefranche. Voilà.
Alors, c'est une paire de couples, puisque vous avez une remplaçante et un remplaçant éventuel, suppléant. Il est clairement indiqué que je vois des logos qui sont connus, qui sont celui du PS, du PCF, d'Écologie et Vert, et de la France Insoumise. Donc les choses paraissent assez claires. On aurait appelé ça une liste d'union de la gauche à une époque. Vous avez quelque chose à nous dire sur cet éventail politique, départemental, engagement ?
Oui, alors c'est une démarche qui avait été entamée au niveau départemental par des membres d'abord du PS et d'Europe Écologie Les Verts, qui ensuite ont fait appel au PC et à la France Insoumise. Et donc l'accord porte sur les programmes. La démarche, en fait, a été de discuter de nos programmes respectifs sur les quatre parties et de voir où ça a chopé et surtout où il y avait des points communs. En fait, on a travaillé pendant un bon moment. Ça n'a pas été si difficile que ça, même si ça n'a pas été forcément une partie de plaisir, parce qu'on s'est rendu compte qu'à gauche et avec les écologistes, on a quand même beaucoup plus de points communs que de différences. Et là où il a fallu se battre un petit peu, c'est sur certains sujets, notamment dans l'écologie, auxquels certains partis tenaient plus que d'autres. Mais en discutant, on a réussi à se convaincre de ce qu'on voulait faire et à faire un programme cohérent à l'échelle du département.
Et on va en parler. Et on va en parler. Et un des titres, d'ailleurs, j'allais dire un des titres les plus gros, le titre le plus gros, c'est pour une majorité départementale solidaire écologique. Et l'autre titre tout aussi gros, c'est démocratie participative. Et démocratie participative, on en parle beaucoup, on l'a pratiqué un peu au travers des pays, d'une façon organisée, structurelle. Que mettez-vous derrière ? Et je crois, à notre entretien préalable, vous m'avez dit que vous aviez déjà commencé, que vous en aviez une certaine idée.
Alors, la démarche d'une démocratie participative est déjà d'intéresser pleinement les citoyens aux questions que l'on veut leur poser, et donc d'aller à leur rencontre dans des lieux comme des marchés pour pouvoir leur poser des questions qui vont être des questions ouvertes.
Et ça, ça dure le temps de la campagne électorale?
Alors, non, ça ne dure pas le temps de la campagne électorale puisque nous avons déjà entamé cette démarche-là citoyenne depuis déjà plus de 18 mois et sur Villefranche-de-Rouergue par le biais de ces ateliers qu'on appelle des ateliers porteurs de parole, on a pu travailler déjà avec plus de 2000 personnes sur des sujets très vastes, sur la privatisation des aéroports de Paris, sur que faire après le confinement, comment repenser notre écologie après l'arrivée de la pandémie. Et aujourd'hui, la question que nous posons à nos concitoyens, c'est qu'attendez-vous de votre département? Et de cette matière qui est là, nous la travaillons ensemble et nous la reproposons auprès des citoyens. Et d'ailleurs, notre programme, dans le 8 pages, à la fin du 8 pages, on voit quelques paraphes, quelques textes qui ont été mis en place par nos citoyens et qui sont des textes extrêmement emblématiques.
Et après, une fois élu, éventuellement, ça continue comment, cette participation des citoyens au niveau départemental?
Alors, au niveau départemental, ce que propose notre programme, c'est déjà d'instaurer une vice-présidence à la démocratie participative. Et les sujets importants du département ne pourront pas être votés sans passer par la démocratie participative. Via un conseil citoyen participatif qui sera composé de personnes qui auront été tirées au sort, voilà, au sein de la population du département. Et ce conseil citoyen pourra donc donner son avis, là ce sera consultatif, sur des sujets qui devront être présentés auprès du conseil départemental. Il pourra aussi être porteur d'autres projets, éventuellement, qui n'auront pas tout simplement pas été pensés par les élus, parce qu'on n'a pas le don d'ubiquité, et nous ne pouvons pas tout savoir, nous ne sommes pas à la place des gens, donc nous demandons aux gens de venir nous voir pour nous dire ce qu'ils veulent, donc via ce conseil, et ce conseil citoyen pourra aussi décider de financement participatif, d'allouer une partie du budget du département à des thèmes, des sujets qui leur tiennent à cœur et qui, bien sûr, doivent servir l'ensemble du public.
Alors, parmi ce qui va ressortir, je suppose, ce que vous espérez qu'il ressorte de ce conseil participatif, nécessairement, je pense que il y aura justement des actions communes, des actions suggérées par les gens que vous avez déjà recueillies. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces axes, notamment sur les solidarités, et vous avez un chapitre sécurité alimentaire et sécurité pour les fragiles. Est-ce qu'il ressort de vos contacts déjà, du programme dont vous nous parliez, quelque chose là-dessus?
Lors des ateliers porteurs de parole, la sécurité, notamment auprès des anciens, ressort énormément. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de prioriser l'aide aux anciens, les soignants autour des anciens, et ensuite aussi de prioriser une alimentation de qualité et locale. C'est une sécurité alimentaire que nous devons apporter via différents schémas. Le premier schéma est bien évidemment une agriculture saine, biologique et locale. Donc un schéma que l'on travaille et que l'on veut développer, notamment avec des zones de test pour des nouveaux producteurs. Voilà, plutôt que de faire du béton, faire des légumes, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et ensuite, développer via notamment le travail de Tarek, qui est un des candidats au niveau du printemps véronais, le suppléant, qui s'occupe de toute la coordination de la mise en place de produits locaux auprès de cantines, qu'ils soient des cantines pour les écoles, et que ce soit aussi éventuellement des restaurations collectives au niveau des EHPAD. Donc on a les deux éléments s'articulent au niveau de la sécurité, que ce soit alimentaire et que ce soit au niveau de la sécurité sociale, par une approche qui soit beaucoup plus globale que ce que l'on peut avoir aujourd'hui.
Au niveau de la sécurité sociale, vous évoquez dans vos documents la misère, il faut appeler les choses par le nom, des 18-25 ans qui n'ont pas accès aux aides qu'ils auraient éventuellement au-delà de 25 ans. Est-ce que ça relève vraiment du département ? Est-ce que le département, il peut vraiment quelque chose ?
Alors, le département, c'est lui qui est chargé d'allouer le RSA. Et effectivement, on a ce problème-là que les personnes qui ont entre 18 et 25 ans, qui font partie des tranches d'âge les plus touchées par la pandémie, hein, parce qu'on a pas mal d'étudiants parmi eux, qui se sont retrouvés à ne pratiquement plus pouvoir étudier, à ne pas pouvoir travailler dans ce qu'on appelle les petits boulots étudiants, dans la restauration, étant donné que les restaurants fermés, on s'est retrouvé avec ces populations-là, comme vous disiez, qui étaient dans la misère. Réel. Les banques alimentaires se sont retrouvées dépassées, il a fallu faire appel aux dons. Donc ça montre vraiment que là, il y a un besoin d'assistance sociale forte pour ces jeunes. Alors, effectivement, le département ne peut pas voter la loi au niveau du RSA, mais le département peut budgétiser, peut décider de définir ses postes budgétaires d'une façon plus ou moins sociale. Actuellement, le département, la majorité départementale, a décidé de dépenser 10% de son budget, ce qui est énorme, dans la route nationale 88, qui, comme son nom l'indique, est normalement...
Mais s'il reportait ce budget, est-ce qu'il aurait le droit de le distribuer aux jeunes ?
Alors, il aurait le droit, tout à fait, de créer une enveloppe pour les jeunes nécessiteux. C'est d'ailleurs quelque chose qui existe dans certaines communautés de communes. Ça a été fait autour de Lyon, autour de Grenoble, par exemple. C'est pas quelque chose de complètement nouveau. Hein.
Une préoccupation qui est largement exprimée dans vos documents, c'est l'environnement. Je suppose qu'il y a dedans l'aspect de nos paysages, mais vous m'avez indiqué aussi que vous aviez des menaces qui vous préoccupaient.
Alors, oui, je pense qu'il y a des menaces qui préoccupent tout le monde en ce qui concerne l'environnement, notamment le réchauffement climatique. On en entend parler tous les jours. Les agriculteurs commencent à être directement impactés. On a des événements climatiques intenses qui se succèdent. Un coup, on a une gelée noire, c'est-à-dire une gelée qui tue tout ce qu'elle touche, tellement elle est importante.
La sécheresse. Je vois mal ce que le département peut faire.
Effectivement, le département, là, ce qu'il peut faire, c'est essayer de ralentir les choses en développant les transports en commun. Je ne sais pas. Il me semble que tout le monde a pu noter qu'à Villefranche de Rouergue, il me semble que tout le monde a pu remarquer que sur Villefranche-de-Rouergue, les transports en commun manquaient énormément. Ça, c'est pour ce qui concerne le réchauffement climatique et la baisse des émissions de CO2. Il me semble aussi qu'on peut avoir une gestion des déchets différente via les circuits courts, qui entraînent aussi une baisse des transports et donc une baisse des émissions de CO2. Et repenser totalement le projet Solena. En fait, la liste du printemps à Voronet est fermement opposée au projet Solena de super déchetterie dans le bassin et souhaite vraiment repenser la question des déchets de A à Z de manière à en produire le moins possible. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas.
Christine Valentin, Romain O'Haraud, je vous remercie. On vous a entendu. À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
À suivre après la pub, un nouvel entretien toujours autour des élections départementales avec le binôme sortant Brigitte Mazard et André Hatt pour le canton Aveyron et Tarn.
De la place de la Collégiale au Pesquier, vous écoutez CFM Villefranche.
Vous voulez bouger, respirer, vous oxygéner dans un espace naturel protégé ? Optimisez votre capital santé, développez vos capacités physiques, renforcez votre concentration et votre autocontrôle, pratiquez un sport accessible à toutes et tous à partir de 5 ans, partagez un moment de convivialité. N'attendez plus, mettez-vous au golf. Un enseignant professionnel diplômé de golf et une équipe motivée vous accueillent toute l'année, 7 jours sur 7. Rejoignez-nous au Golf du Touch aux portes de Villefranche de Rouergue.
L'Association des commerçants et artisans vous souhaite une bonne journée au cœur de Villefranche-de-Rouergue.
C'est un moment de bien-être où la cliente s'occupe d'elle, hein, et ça les clientes me le disent. c'est notre moment à nous et là on se détend.
Travailler à fond avec les producteurs locaux qui nous fournissent d'excellents produits, on arrive à faire quand même une excellente cuisine.
Je suis en relation avec un fournisseur de fleurs exotiques, donc on peut avoir des fleurs qu'on ne voit pas tous les jours.
On a un large panel qui va du vélo enfant au vélo adulte, on a même du vélo électrique d'occasion.
Je travaille également le visage en massage pour repulper les rides.
Voilà, on vient chez son cordonnier, on est comme à la maison. Hein.
Et l'avantage que l'on a ici, même si on n'a pas toute la collection des deux marques, on peut les commander directement ici.
Nombre de clients qui me disent qu'ils n'osent pas rentrer dans la boutique, peur que ce soit cher, en ressortant en disant « mais si j'avais su que c'était même pas plus cher que ça, je serais venu il y a longtemps ». Bon, ça me fait plaisir, voilà.
Consommer à proximité, nous avons tous à y gagner.
Il est tam, yeah, yeah, yeah.
Bonjour, c'est Jean-Marie Perrier qui vous parle. De quoi ? De Villeneuve d'Aveyron, évidemment. Un très beau village au centre duquel je vous invite à visiter la maison de la photo avec 190 tirages des chanteurs et musiciens des années 60. Et autre incontournable de la Bastide, la galerie Art et Encadrement dans laquelle j'ai mis les photographies des années 90. Bon, et puis il y a des restaurants, parce que la cuisine, on connaît ici. Hein. Bon allez, on vous attend à Villeneuve d'Aveyron.
Écoutez et réécoutez. CFM Villefranche sur cfmradio.fr.
Andrea et Brigitte Mazard, vous êtes candidat à l'élection départementale sur le canton Aveyron et Tarn. Et je vais vous demander, pour commencer, de vous présenter chacun, éventuellement d'évoquer vos remplaçants.
Alors, Brigitte Mazard, je suis agricultrice, j'ai bientôt 59 ans, et donc élue sur le canton depuis 2015. Et je me présente auprès d'Andréate, ma remplaçante, et Suzette Clapier, qui est maire de Saint-Vincent, et qui était aussi la remplaçante la première fois.
Eh bien, donc, Andréate, j'ai 54 ans. Je suis élu au conseil général d'abord, puis départemental depuis 2004. Je suis maire de Crespin depuis 1995. Et j'ai diverses activités professionnelles, notamment agriculteur, propriétaire d'un vignoble dans le Tarn et également gérant d'une société de négoce de bestiaux pour l'exportation. Et mon remplaçant est donc Jérôme Ricard, qui est ancien maire de Saint-Salvadou, qui est désormais maire délégué de Le Bas-Ségala, et qui est également conseiller communautaire. Il est aussi agriculteur et commercial en matériel agricole.
Donc c'est une liste, entre guillemets, agricole, tout à fait rurale, et c'est surtout une équipe de sortants. De sortants, vous avez déjà eu au moins un mandat, voire davantage. Et quand on a affaire à des sortants, la première chose qu'on leur demande, c'est de faire un petit peu un état des lieux. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui leur a tenu à cœur? De quoi ils sont le plus fiers, le plus contents?
Alors, pour ma part, c'était mon premier mandat, donc il y a eu une petite période, d'apprentissage à être conseillère départementale et puis voir un petit peu les problématiques qui tenaient à cœur à nos concitoyens et savoir qu'est-ce qui serait le plus important. Quelque chose qui m'a beaucoup emballée pendant ces 6 ans, ça a été de se rendre compte qu'il y avait une... un manque de médecins qui allait nous toucher ou qui nous touchait déjà sur le canton, puisque l'ensemble de nos médecins avaient pratiquement tous plus de 60 ans. Il était important de savoir comment on allait pouvoir combler le manque d'ici quelques années. Et j'ai beaucoup œuvré là-dessus. Il y a des choses qui se sont faites, c'est pas terminé, mais faut savoir que quand même le département œuvre beaucoup pour la mise en place de nouveaux médecins et qu'on est un des seuls départements où il y a moins de sortants que d'entrants et de médecins mis en place sur notre département. Donc ce qui nous permet de dire que on a eu raison de s'en préoccuper de bonne heure et que l'action du département de l'Aveyron est efficace dans ce sens-là.
Andréa.
Oui, je crois que Brigitte a tout à fait raison sur ce dossier dont elle s'est occupée. C'est une réussite. Ensuite, au niveau, il y a deux aspects pour ma part en tant que vice-président. Il y a l'aspect local et l'aspect un peu transversal sur l'ensemble des départements. Au niveau local, je pense qu'on a agi également sur les infrastructures routières avec vigueur et détermination. Et je pense que les usagers sont satisfaits. Et ensuite, nous avons également agi concernant la jeunesse à travers les investissements sur les collèges, qui est une compétence primordiale du conseil départemental. Et puis, également, nous avons soutenu les autres collectivités, c'est-à-dire les communes et les communautés de communes, et bien dans leurs investissements, puisque nous les avons fortement accompagnés financièrement. Et ensuite, il y a l'aspect transversal. Donc je suis le président de la commission des finances de ce département depuis... je pense depuis 2008, chacun s'accorde à dire que les finances sont saines et se portent bien, et j'en suis fort satisfait, c'est-à-dire que à travers notre budget de fonctionnement, nous maîtrisons les charges, et ce qui nous permet d'avoir ensuite derrière des investissements qui sont financés sans avoir trop recours à l'emprunt.
Alors, on a fait le point sur le passé, et le présent, c'est la candidature, et c'est la candidature avec une étiquette, l'Aveyron pour tous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous définir un peu ce qu'est cette étiquette, son appartenance, son obédience?
Ouais. Alors, l'Aveyron pour tous, c'est déjà un groupe. C'est un groupe derrière Arnaud Viala. Nous sommes nombreux à adhérer à une cause commune, l'Aveyron, et nous le disons haut et fort.
Oui, en fait, c'est l'Aveyron pour tous et tous pour l'Aveyron. Les deux choses comptent. Effectivement, comme le dit Brigitte, nous sommes engagés nombreux autour d'Arnaud, parce que nous le connaissons bien, nous connaissons sa capacité de travail, son intelligence et sa détermination pour faire avancer les dossiers aveyronnais. Et n'oublions pas, quand on dit l'Aveyron pour tous, c'est-à-dire tous les aveyronnais, et quand on fait de la politique, on fait de la politique au service de l'homme. Donc, toute chose que l'on entreprend doit bénéficier aux individus. Alors, on sert les institutions à travers le conseil départemental, et à travers ces institutions, on sert les individus, c'est-à-dire nos compatriotes aveyronnais.
Alors, les individus, justement, dans les documents de campagne de l'Aveyron pour tous et de tous pour l'Aveyron, il y a des choses qui, puisque ça me sert souvent de trame, une chose m'a frappé, c'est les passes, le pass jeunesse et le pass culture. Qu'est-ce que vous mettez derrière ça? Ça va se passer comment?
Ben, tout d'abord, avant de parler comment ça va se passer, je crois que l'objectif premier que l'on doit avoir dans nos pays ruraux, c'est de maintenir la jeunesse au pays et faire en sorte que les gens puissent vivre et travailler au pays. Et pour y arriver, eh bien, il est nécessaire absolument que nos jeunes étudiants qui sont aux universités à Toulouse, à Montpellier, eh bien, le week-end aient plaisir à revenir dans leur famille parce qu'ils y trouveront aussi bien une offre culturelle, une offre sportive, etc. Et ensuite, quand ils seront un peu plus adultes, qui pourront être en activité professionnelle, il faut que, pour être ancrés sur le territoire, ils y trouvent également du travail. Donc tout notre objectif est de faire en sorte que, d'aider par exemple les autres collectivités, comme j'ai évoqué tout à l'heure, à mettre en place des infrastructures, qu'elles soient sportives ou culturelles, pour justement capter ces jeunes, et ensuite avoir des infrastructures, par exemple routières, puisqu'on sait que l'économie est liée à la route, pour qu'il y ait des entreprises qui viennent s'installer sur le pays, et que donc nos jeunes restent au pays. Et après, il y a d'autres moyens, à travers les passes, que peut-être on va évoquer Brigitte.
Oui, les passes culture, ce qui veut dire que la culture, elle n'est pas unique. On dit la culture, mais en fait, c'est toutes les formes de culture, et c'est avoir accès à toutes ces formes de culture par le biais de ces passes. Et quand on parle, je reviens sur les jeunes, hein, moi je reviens sur les plus jeunes encore, nos collégiens, puisque en fait, on se rend compte aussi, si on veut garder nos enfants, nos jeunes au pays, il suffit aussi qu'ils soient bien dans nos collèges. Et donc, il suffit aussi qu'on entretienne nos collèges, et qu'on puisse continuer à les faire vivre, et nous, on est là, le département, pour que ces structures soient maintenues, et que nos tout jeunes jeunes se plaisent déjà ici dès leur jeunesse, parce qu'on sait que notre histoire, elle commence là, et souvent, c'est un retour à une jeunesse un petit peu passée qui nous fait revenir au pays.
Alors, revenir au pays et y habiter, parmi les propositions qui sont faites dans le document de commun, il y a une singularité qui m'a accroché, c'est, et par rapport à un conseil départemental, j'entends, c'est de promouvoir, de faire une opération, lancer une opération d'habitat innovant. Qu'est-ce que ça sera, cette opération d'habitat innovant ?
Ben, l'habitat innovant, si vous voulez, ça va surtout concerner un habitat qui sera, comme l'on dit, autosuffisant en énergie, c'est-à-dire qui pourra être faire en sorte que cet habitat-là, eh bien, il y ait des matériaux de construction ou des matériaux.
En quoi le conseil départemental est concerné ? Qu'est-ce qu'il va faire ?
Si vous voulez, nous, on peut établir une liste de critères qui fera que tel habitat sera éligible et telle catégorie de population sera éligible à des aides pour permettre à ces gens de pouvoir avoir un habitat, comme on dit, le plus économe en énergie. C'est là le sens de ce que vous venez d'évoquer.
Alors, ce que je vois aussi dans les documents de campagne, c'est de lancer une grande campagne de recrutement. Le conseil départemental va embaucher 500 personnes supplémentaires.
Non, pas du
que
tout.
Que de grandes idées.
Pas du tout. On essaie de maîtriser la masse salariale, au contraire. Mais on avait déjà lancé, sous la présidence de Jean-Claude Luche, une campagne de recrutement qui avait fort bien marché. Et d'ailleurs, nous avions mis des affiches de 5 par 6 sur les départements limitrophes, qui avaient été d'ailleurs fort surpris de cette démarche et fort inquiets de voir des habitants, par exemple, du Tarn venir rejoindre l'Aveyron. Mais en fait, voilà, c'est une campagne de communication pour faire venir des gens à l'Aveyron, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises aveyronnaises peinent à recruter. Elles ont besoin de main-d'œuvre et elles n'en trouvent pas forcément.
Et alors, comment allez-vous il y avait eu cette campagne.
Il y a eu cette campagne, en vendant, bien sûr, les atouts de notre beau département de l'Aveyron, entre autres.
Bien. Et il y a eu aussi autre chose, c'est que lors de salons, certains entrepreneurs aveyronnais se sont déplacés en région parisienne ou à Paris même pour proposer des offres d'emploi. Et avec l'offre d'emploi, il y avait aussi le cadre de vie en Aveyron. Et là aussi, ça a été quand même une belle action, puisque plusieurs Parisiens sont venus travailler en Aveyron et apparemment très contents. Donc je pense que c'est important aussi de partir des professionnels, en plus de ce qu'a fait le département au point de vue visuel.
On arrive au terme de notre entretien. Je vous laisse une conclusion ou un propos libre. Vous avez une minute pour ça.
Eh bien, écoutez, nous allons, tout au long de cette campagne, faire en sorte de convaincre le plus d'Aveyronnais de voter pour notre candidature, puisque, sachant que c'est un vote indirect, puisque en votant pour nous, ils voteront pour Arnaud Vialand en tant que président du conseil départemental.
Eh bien, Brigitte Mazard et André Hatt, qui êtes candidats à l'élection départementale pour le canton Aveyron et Tarn, je vous remercie.
Merci à vous.
Un entretien à réécouter comme tous les autres en podcast sur le site cfmradio.fr. Le mag, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure, pour une nouvelle édition, toujours autour des élections départementales. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée en compagnie de nos programmes.
CFM Villefranche, le mag.